Telfer, le jardin enchanté. Un conte de Amarnath Hossani et Kavinyan Karupudayan. Raconté par Rachel de Spéville-Mamet. À travers un épais brouillard, trois silhouettes à peine visibles semblent suspendues dans les airs. Au premier regard, on peut croire à des statues figées dans une montagne enneigée. Sauf que le trio n'arrête pas de balancer ses pieds et de papoter. Des murmures à peine audibles se font entendre par bribes. Le vent qui souffle de temps à autre dissipe ces bandes de nuées qui enveloppent les lieux. On y voit plus clair à présent. Le décor se dénude graduellement et expose sa nature éblouissante. Tout autour, des nuages suspendus comme des barbes à papa géantes. D'habitude, ils sont de toutes les couleurs, mais aujourd'hui, c'est le gris qui les habille. Tout paraît triste, contrairement aux autres jours en cette saison. Le ciel est toujours dégagé comme un grand écran. Le soir, des myriades d'étoiles sont au rendez-vous pour le spectacle quotidien. Nos trois personnages deviennent visibles. Ils sont perchés sur le flanc de la montagne et fixent le ciel. Leur conversation est plus claire. Tout cela semble bien animé.
Depuis, notre havre s'est transformée en une sorte de désert glauque. Les lutins ne sont pas habitués à se tourner les pouces,
dit un des trois. Celui qui se trouve au milieu ajoute.
Tu as raison. C'est comme si le monde s'était subitement arrêté et que nous avions perdu nos valeurs. Nous, oui. Mais pas toi, migrant. Tu n'appartiens pas à notre communauté. Comment peux-tu dire une chose pareille, Lutte ? Te rends-tu compte que tu ne nous ressembles pas, migrant ? Toi aussi, tu te mets de la partie, l'utile ? C'est la vérité. D'ailleurs, c'est peu de temps après ton arrivée que les choses ont commencé à mal tourner ici,
ajoute Lutte. Migrant se lève et se met à tourner en rond. Effectivement, il est grand pour un lutin. Avec ses mèches de cheveux emmêlées, il a l'air d'un sage. Le vent redouble d'intensité et de petits tourbillons envahissent les lieux. Lutte et l'utile se dressent aussi. Le trio emprunte un sentier qui serpente entre des immenses sapins couverts d'une armure blanche. Migrant traîne derrière l'air abattu. C'est un géant parmi les lutins. La conversation continue et l'amertume des jumeaux envers ce dernier est toujours présente.
Cela fait plus d'une semaine qu'il ne donne plus signe de vie. Où peut-il bien être ? Pourtant, on a bien cherché dans les endroits où il se réfugie habituellement.
Il est peut-être malade, mes frères, dit Migrant timidement.
Toi, l'oiseau de mauvaise augure, tais-toi,
coupe Lutte.
Si cela continue, l'usine va devoir fermer ses portes, constate l'utile. Quel malheur, on va se retrouver au chômage, s'exclame Lutte.
Soudain, le vent venu dans l'autre sens emporte sur son passage les petits tourbillons. Le trio se penche en avant pour résister au souffle sans que cela ne perturbe le déroulement de la conversation. Dans leurs propos, l'inquiétude s'ajoute au ressentiment. La voix de Migrant se fait entendre.
Les enfants sont sûrement en train de se préparer là-bas. Oh, les pauvres, ils risquent d'attendre longtemps cette année. Si vous voyez le nombre de courriers qu'on a reçus et ceux qu'ils ont commandés. Espérons que la magie de Noël opère comme toujours, dit Lutte en soupirant. Je les vois fixant ce ciel avec la prunelle des yeux qui brille, ajoute Migrant.
Leurs silhouettes se fondent dans l'épaisse brume qui a refait son apparition. La conversation se transforme à nouveau en murmure. Pendant ce temps, dans un autre lieu lointain, plus précisément, sur une petite île, sous un autre climat, une autre ambiance règne. Le soleil tape fort, trop même sur la bande de sable qui encercle ce bout de terre. Juste derrière, des filaos se dressent au garde-à-vous, comme des sentinelles. Ils doivent être gentils, car la brise se permet de taquiner leurs feuilles et des oiseaux y chantent gaiement. C'est la partie sud de l'île. Un peu plus loin, une petite maison se fait discrète sous un énorme flamboyant fleuri. Des pétales voltigent selon l'humeur de l'alizé qui slalome entre les arbres. Ainsi, un majestueux tapis rouge s'étale avec grâce sur le sol. Accoudé sur le rebord de la fenêtre, Lakshmi, une mignonne petite fille, admire cette scène.
Ses grands yeux noirs brillent comme des billes. La brise, emplie de sel marin, vient alors lui caresser le visage, fait onduler sa chevelure d'ébène et y dépose délicatement quelques pétales de flamboyant. À ce moment-là, Lakshmi ouvre la paume de ses mains et aussitôt, de nombreux oiseaux se présentent et se mettent à picorer les graines qui s'y trouvent. C'est un rituel quotidien pour cette fillette de 9 ans. Sa mission va continuer pendant encore une heure. Les chiens, les chats et les oiseaux de la basse-cour auront de quoi manger. Ensuite, ce sera l'arrosage du jardin et du potager. Comme c'est samedi, elle peut prolonger sa tâche d'une demi-heure encore. À 9 heures, Lakshmi prend son petit déjeuner. Elle prend plaisir à manger les mangues maison qu'elle vient de cueillir et dont la chair jaune est juteuse. Elle en raffole. Le parfum sucré de ses fruits remplit l'atmosphère. Mais Lakshmi est triste. En regardant la belle nature qui l'entoure, elle ne peut s'empêcher de penser à toutes ces forêts qui brûlent de par le monde et tous ces animaux qui meurent. Songeuse, elle va s'asseoir sous son flamboyant. Ses trois compagnes volent vers elle. Pic-Pic, comme à l'accoutumée, se pose sur sa tête pour tresser ses cheveux. Alors que Cateau Vert murmure dans ses oreilles une langue qu'elle semble comprendre. Lakshmi regarde le ciel et lance dans la musique du vent.
« Tu viendras bientôt. Le seul cadeau que je te demande, c'est que les hommes protègent notre mère, la terre. Qu'ils la respectent et la nourrissent. Mon vœu le plus cher est que la terre, notre seule et unique maison, se transforme en un grand jardin. »
Pic-Pic, Cateau Vert et Boule-Boule poussent des petits pépiements en soutien à leur jeune amie. Puis, muni de son lot de livres, Lakshmi met son chapeau la paille et part à la bibliothèque. Sans se faire prier, Pic-Pic, Cateau Vert et Boule-Boule prennent leur envol et la suivent.
« Comme je suis chanceuse de les avoir! Si je pouvais, je m'envolerais avec eux. J'aimerais tellement voir mon île depuis là-haut. »
En route, Lakshmi s'arrête quelques secondes devant l'église Saint-Jacques. À peine a-t-elle ôté son chapeau que ses trois amies se posent dessus comme pour prier, elles aussi. Elle poursuit sa route et traverse la vieille gare de Souillac qui autrefois, comme le raconte son grand-père, abritait les trains. Les arbres qui bordent l'allée menant au jardin semblent la saluer, elle et ses amis. Une ambiance joyeuse règne au jardin Telfer, où l'espace fourmille d'enfants tenant précieusement des livres dans leurs mains. Parmi, des albums illustrés et des bandes dessinées dont les couvertures exposent des personnages tout en couleurs. Ces livres sont particuliers. Ils sont faits de feuilles de ravenal, de bananiers ou de lataniers et reliés à l'aide de lianes. Lakshmi échange des signes de main, des sourires aux gens qu'elle croise et salue tout le monde sur son passage. Il faut dire que tout le monde se connaît dans ce village. Comme c'est la période des fêtes, les enfants sont dans la rue en train de jouer avec des feux d'artifice en pleine journée. Une fusée passe juste devant elle. Prise de panique, Lakshmi court se réfugier derrière Tonton François, le marchand de merveilles.
Pourquoi doit-on faire éclater ces pétards qui polluent l'atmosphère ?
Se demande-t-elle. Des marchands de gâteaux se sont installés à l'ombre des grands arbres qui longent l'allée centrale. Il y a toute une animation autour d'eux. Les enfants reviennent avec une friandise, des beignets, des sorbets ou des barbes à papa avec un large sourire de satisfaction. Ce samedi, ça grouille comme des abeilles autour du marchand de merveilles. Surtout des parents qui viennent déposer leurs enfants. Avant de reprendre sa route, Lakshmi ramasse quelques papiers que les gens ont jetés par terre après avoir mangé.
« C'est faux de dire que l'exemple doit venir d'en haut. Regardez ce que vient de faire cette jeune fille !»
lance Tonton François à ses clients qui restent bouche bée. Lakshmi a choisi comme dessert du glaçon râpé arrosé de sirop de 4 couleurs. Pour finir la dégustation de sa sucette, elle fait une pause au pied d'un immense multipliant.
« C'est la bibliothèque !»
Tout se passe dans l'arbre. Une équipe de singes prennent les enfants sur leur dos et grimpent sur les lianes pour accéder à l'intérieur. Les parents qui les accompagnent y vont seuls en grimpant comme les singes. C'est au tour de Lakshmi et un grand singe se présente. Il s'appelle Coco et elle le connaît très bien. Il est le plus ancien des escaladeurs et c'est lui qui forment les nouveaux pour guider les enfants. En montant, ils croisent une colonie de fourmis qui transportent des brindilles. Un peu plus haut, des oiseaux se posent sur les branches avec les feuilles sèches dans le bec, qui sont utilisées pour relier les livres qui, dit-on, racontent l'histoire de l'île. Une fois au sommet, le singe dépose Lakshmi en douceur. Des papillons de toutes les couleurs prennent alors le relais pour guider les arrivants. Tout est silencieux. Des collections de livres sont suspendues au-dessus des têtes. Il suffit de montrer du doigt un livre pour qu'une liane se tende et le rende accessible. Lakshmi n'est pas pressée. Elle aime visiter ce lieu, découvrir les nouveaux livres et sentir le parfum des feuilles. Elle admire aussi le travail des employés. Et ils sont nombreux dans cette bibliothèque. Sur la gauche, dans un petit atelier, une équipe de chenilles écrivent des textes sur des feuilles à partir des histoires que leur racontent les pies et les cateauverts conteurs. Puis, des escargots se mettent à illustrer. Au fond, des araignées relient les feuilles avec leurs toiles et des brindilles. De temps en temps, Lakshmi jette un coup d'œil à l'extérieur pour observer tout le travail de relais de courrier qui se déroule dans le ciel et même en mer. Des pailles en queue planent tout en haut dans les airs et taquinent les nuages. Une équipe de cresserelles vole plus bas et apporte le courrier. Et les dernières nouvelles sont recueillies par une colonie de fourmis rouges pour ensuite les publier dans le journal quotidien de la bibliothèque. C'est la même activité dans l'océan. Les informations arrivent en haute mer par les baleines, qui sont relayées par des dauphins à des bandes de poissons. Finalement, ce sont les crabes qui ont la tâche de les transmettre sur terre. Lakshmi est admirative devant tout ce travail accompli par ses amis les animaux. Elle est fière d'être leur amie. Elle est aussi honorée d'être très proche du bibliothécaire, Monsieur Robert. Celui qui est non seulement à la tête, mais aussi l'architecte de ce temple de connaissances. Un lieu qui n'existe nulle part ailleurs. Elle est impatiente de le rencontrer comme chaque samedi. Aujourd'hui, il est très occupé avec les nouvelles recrues qui viennent de l'étranger. Une bonne dizaine de minutes plus tard, il fait son apparition. La petite fille est fascinée par le personnage. Un grand bonhomme, Monsieur Robert, est toujours vêtu de son pantalon, chemise, paletot, ce qui le rend à la fois imposant et élégant. Il a souvent l'air pensif et semble transporté dans un autre monde quand il contemple la mer Indienne. Mais il est différent en présence des enfants. C'est un grand conteur d'histoires. Il fait rire les enfants qui lui disent « T'es un grand comique, toi !»« N'en doutez pas, mes enfants, n'en doutez pas !» leur répond-il toujours. Le bibliothécaire s'approche de Lakshmi avec sa démarche habituelle. Il prend le temps pour avancer et apprécie chaque mouvement. Il a toujours un petit carnet dans sa poche sur lequel il note des mots ou gribouille des dessins dès qu'il est inspiré. Souvent, c'est à partir des choses de la vie de tous les jours qu'il commence à écrire ses poèmes. La nature le fascine et il dit toujours que le village de Souillac l'a choisi.
Lakshmi, tu m'attendais ? J'étais avec deux nouveaux amis qui nous arrivent de l'Australie.
Derrière lui se tiennent un koala et un kangourou.
Je te présente Kang, notre pompier, et Koa, notre agent de sécurité. Ils ont de l'expérience pour les incendies et la protection des arbres.
La petite fille salue les nouveaux qui prennent congé et elle les suit du regard. Monsieur Robert poursuit.
Viens ma fille, je dois m'entretenir avec toi sur un sujet important.
Lakshmi entre dans le petit bureau de Monsieur Robert, qui se trouve tout en haut de l'arbre, offrant une vue magnifique sur l'océan Indien et les rochers de la pointe du cimetière marin de Souillac. L'ambiance est toujours morose là-haut. L'épaisse couche de neige a changé de couleur. Le gris a recouvert le blanc, ce qui rend l'atmosphère encore plus triste. La même ambiance règne à l'intérieur de l'usine, où est confinée la communauté des lutins. Le dos voûté, les épaules affaissées, les petits hommes fixent le sol. Les machines et les équipements sont figés dans la pénombre. Seules quelques bougies allumées, ça et là, apportent un peu de lumière dans l'atelier. On arrive ainsi à deviner le désordre qui y règne. Des lots de jouets couverts de poussière entassés contre les murs, des toiles d'araignées un peu partout. Migrant lève la tête et jette un regard autour de lui. L'image du passé lui revient subitement à l'esprit. Il revoit l'animation qui rendait l'usine vivante, surtout en cette période de l'année. La dextérité des ouvriers, leur vivacité pour assembler les jouets et les ordres des superviseurs. Sans oublier le bruit des machines qui tournaient nuit et jour. Juste à côté, le classement du courrier se déroulait dans la bonne humeur, avec parfois des commentaires sur les commandes des enfants du monde entier. Cette joie se prolongeait jusqu'à l'heure du déjeuner. Migrant se dresse subitement. Des murmures sourds se font entendre. Il réalise alors que ce sont des sanglots. Ses amis pleurent à chaudes larmes. Une autre ambiance règne au royaume du Père Noël, dont l'absence prolongée explique tout ce chamboulement. Migrant se lève et parle.
« Il faut reprendre les recherches, mes frères. Cela ne sert à rien de se lamenter. »
Laisse ceux qui sont proches de Santa manifester cet état d'âme, migrant, répond Lucille.
On comprend que tu sois insensible, mais rassure-toi, on va faire tout pour le retrouver, reprend Lutte.
Et sain et sauf, ajoute Migrant avec un sourire timide.
En attendant, ceux qui restent auront la responsabilité de nettoyer l'usine et de remettre les machines en marche, ordonne Lutte.
Une fois dehors, Lutte s'adresse alors à Migrant.
On va se séparer et chacun cherchera de son côté. Tu iras dans la région de la forêt vierge.
Les lutins prennent leur direction désignée en silence. Mais Lutile ne peut s'empêcher de questionner Lutte.
Personne n'a jamais mis les pieds là-bas. Migrant va se perdre, Lutte.
Laisse-le. Notre communauté ne pouvait plus supporter un étranger, Lutile.
Migrant emprunte le sentier traversant la forêt vierge. Les arbres couverts de leurs manteaux gris sont voûtés. Des rubans de brume commencent déjà à envelopper les alentours. Le lutin rajuste son capuchon sur sa tête et ramasse une branche sèche en guise de canne. L'obscurité ne tarde pas à envahir les lieux, obligeant Migrant à allumer un flambeau. Il se met à marmonner.
Père Noël, où peux-tu bien être? Tu nous joues un sacré tour cette année.
L'endroit ne lui est pas familier du tout. Il n'est jamais venu par ici. Pourtant, combien de balades n'a-t-il pas fait en compagnie du sacré bonhomme? Celui-ci posait toujours la main sur son épaule lors de ses promenades hebdomadaires, tôt le matin. Les autres ne venaient pas car ils faisaient la grasse matinée. Pour Migrant, c'était un moment privilégié. Se retrouver seul avec le Père Noël, l'écouter, lui parler et l'admirer. En plus, ce signe de tendresse lui plaisait énormément. Lui, orphelin et étranger, adopté pour faire partie de la communauté des lutins, c'était un rêve. Une poignée de neige tombe d'une branche et le sort de ses pensées. De sa main gantée, Migrant essuie quelques larmes qui perlent sur ses joues. L'environnement lui paraît plutôt lugubre. La silhouette des arbres figés derrière le rideau de brume ressemble à des créatures venues d'ailleurs. Le jeune lutin a subitement peur. Il veut rebrousser chemin, mais la raison de sa présence sur les lieux le fait changer d'avis. Il baisse la tête et s'enfonce dans ce milieu hostile. Le brouillard semble plus épais et Migrant avance à l'aveuglette. Son flambeau commence à faiblir et le sentiment de s'être égaré s'empare alors de lui. La panique prend le dessus, mais le lutin tente de poursuivre son chemin. Soudain, il sent le vide sous ses pieds et c'est une chute vertigineuse qui se produit. Migrant pousse un grand cri, puis c'est le noir total. Des rayons de soleil inondent la pièce. Monsieur Robert s'installe derrière son bureau où s'étalent des rouleaux de parchemin. L'espace paraît trop petit pour lui, mais cela semble lui plaire. Le vent siffle par intervalles à travers les hublots ouverts. Le bibliothécaire plonge une plume de paon dans son encrier, griffonne quelques mots sur la pile de feuilles posée devant lui et regarde Lakshmi droit dans les yeux. Son sourire arrive difficilement à cacher ses sourcils froncés. La petite devine alors que son amie a des choses sérieuses à lui dire.
« Je suis inquiet, car le Père Noël n'a pas encore répondu à mes courriers. D'habitude, il répond promptement.
« D'après vous, c'est grave, Monsieur Robert ?»
demande Lakshmi d'une voix tremblante.
« Oui, en plus, je lui ai aussi expédié la liste des demandes des enfants pour Noël. »
« Il y a peut-être du retard dans l'acheminement des lettres ?» dit timidement la petite.
« Pas du tout. Les cresserelles qui assurent la livraison dans la région sont toujours au rendez-vous et elles m'expliquent qu'il n'y a rien qui vient du pôle Nord en ce moment. »«
Alors là, ce n'est pas normal !» s'exclame Lakshmi en se levant de sa chaise.
Le vieil homme se lève aussi et vient prendre Lakshmi par les épaules.
« Ne sois pas bouleversée, ma fille. » Je vais lui envoyer une autre lettre. Je te tiens au courant s'il y a du nouveau.
J'espère qu'il se porte bien. Et dites-lui que s'il y a un problème, nous, les enfants, sommes prêts à l'aider.
Je vais lui transmettre ton message sans faute, Lakshmi. Rentre chez toi et continue à voyager à travers les livres.
La petite fille sort. Le bibliothécaire va se mettre à la fenêtre et fixe l'horizon. La ligne qui sépare le bleu azur du ciel et l'étendue turquoise de la mer est presque invisible. Une masse grise semble la couvrir. Monsieur Robert, après avoir humé l'air marin et admiré les danses des pailles en queue dans la musique du vent au-dessus de la mer Indienne, revient s'asseoir et écrit dans son carnet. La mer nocturne est là, sous le ciel voilé. La mer calme, sur la grève, voici des palmes confuses.
Migrant reprend ses esprits, regarde autour de lui. Il se trouve dans une sorte de grotte éclairée par des points lumineux.
Des lucioles. Soudain, il le voit là-bas, accroupi. Quelques branches allumées chauffent les lieux.
L'abondante chevelure et la longue barbe blanche du personnage ont perdu de leur splendeur. Son ombre, projetée contre les parois de la grotte, en dit long sur son état d'esprit. Il ne remarque même pas la présence du lutin. Ce n'est que quand celui-ci se présente devant lui qu'il lève les yeux. Et la surprise le fait alors réagir.
« Migrant, mon grand, que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé ?»«
Le hasard, Père Noël. Cela fait longtemps qu'on vous cherche. Vous étiez perdu ?»
Je le suis toujours, mon fils.
Comment ça?
Le monde est perdu.
Pourquoi dites-vous cela?
Notre environnement, qui est supposé nous protéger, est à son tour menacé.
Mais par qui?
Par nul autre que les humains eux-mêmes. Ils détruisent les forêts, polluent l'eau et l'air.
Moi qui croyais que le monde était un endroit où il faisait bon vivre.
Pour beaucoup, ce n'est pas le cas, migrant. Prenons ton cas, par exemple. Si tout s'était déroulé comme prévu, aujourd'hui, tu serais peut-être dans un pays pauvre.
Je ne comprends pas, Père Noël.
La cigogne qui te transportait a été prise dans une tempête et tu as atterri chez moi.
Maintenant, je comprends l'attitude des autres vis-à-vis de moi.
Les autres ne comprennent rien, mon fils. Ils croient que tout est acquis, alors que ce n'est pas le cas.
Je suis donc un étranger.
Pas du tout. Tu es comme tous les enfants du monde. Et aujourd'hui, tu as la chance de faire partie de la communauté des lutins. Cela faisait longtemps que je voulais te parler de tes origines, mais j'attendais le moment voulu. Les circonstances ont voulu que ce soit maintenant.
Bouleversé, Migrant décide de changer le sujet de la conversation.
Que comptez-vous faire, Père Noël? Restez ici?
Je me suis isolée pour réfléchir à la marche à suivre.
Pour changer les choses?
Oui. Envoyer un message fort aux enfants de la Terre. Je suis convaincue que ce sont eux qui peuvent changer le monde.
Comment allez-vous procéder?
Tu sais, migrant, je reçois chaque année beaucoup de demandes pour Noël. Et le courrier me parvient à travers les bibliothécaires du monde entier.
Je comprends. Vous allez répondre aux bibliothécaires?
C'est ce que je vais faire de ce pas. Je vais leur demander de transmettre mon message aux enfants. Et là, j'ai en tête quelques enfants qui m'ont profondément touchée par leurs lettres. Laisse-moi te lire une lettre en particulier de la part d'une petite fille qui m'a beaucoup touchée. Elle a écrit dans une langue qui, à première vue, paraît étrange, mais dont la sonorité est tellement belle. Je dois t'avouer que je suis encore en train d'apprendre à la déchiffrer. Tiens, où est Madame l'ours ? C'est elle qui m'enseigne cette langue, qu'elle appelle Madame Serré. Cela vient d'une île lointaine, perdue au beau milieu de l'océan Indien. Et cette langue se parlait il y a très longtemps. D'après ce qu'on m'a dit, même les habitants ne la parlent plus maintenant. Dommage.
Serge migisiege bogolomgom noelgel. Kigi maganierger. Perger noelgel. Mogo fingin ferger. Bongon tigi figi. Cher Père Noël, j'espère que vous allez bien. Père Noël, vous savez sans doute déjà que j'ai été sage pendant toute l'année. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que je n'ai pas besoin de gros cadeaux. J'ai envie seulement que la terre se transforme en un jardin. C'est ce que ma mère appelle « paradis ». Mon cœur sera tellement rempli de joie si jamais cela arrive. Certains qui me disent que vous n'existez pas. Mais je ne les crois absolument pas. Je suis sûre que vous lirez ma lettre. Je vous promets que vous pouvez ne pas visiter ma maison cette année. Père Noël, dites-moi, est-ce vrai que vous vous couchez avec votre gros costume rouge ? Bisous ! Lakshmi.
À Souillac, le temps s'écoule comme à son habitude. Mais pour Lakshmi, tout semble aller au ralenti. Les aiguilles de la pendule à l'école et même celles de son réveil matin. Une semaine est passée déjà depuis que Lakshmi a rencontré M. Robert. Pourquoi le Père Noël tarde-t-il à répondre aux courriers des enfants ? Serait-il malade ? Aurait-il pris sa retraite ? Quel âge a-t-il ? Tous les soirs, elle n'arrive pas à s'endormir. Toutes ces questions la perturbent. Elle fait de mauvais rêves et à chaque fois, le Père Noël apparaît dans un brouillard. Le jeudi soir, c'est un véritable cauchemar. Elle le voit qui se noie dans une mer noire. Le pauvre bonhomme tend une main désespérée dans sa direction. La petite en conclut que c'est un message. Ce vendredi après-midi, en rentrant de l'école, Lakshmi est toujours bouleversée. Mais elle garde son calme, car le lendemain, elle ira à la bibliothèque. Monsieur Robert aura peut-être de bonnes nouvelles pour elle. Pour se détendre, elle s'installe sous la varangue pour faire la lecture à haute voix à ses amis. Autour d'elle se trouvent Mimi le chaton, Cato Vert, Pic-Pic, Boule-Boule, des moineaux, des serins du Cap et quelques poules. Un gecko est perché au-dessus de sa tête et un peu plus loin, près du portail, se tient le petit chien du voisin.
Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende de Tizan. Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous transporter par ce conte, les amis.
À ce moment-là, une cresserelle vient se poser sur l'épaule de Lakshmi et lui murmure à l'oreille.
« Kiki, kiki, Monsieur Robert te demande, c'est urgent !»
Le cœur de Lakshmi fait un bond. Elle pose le livre sur son fauteuil et demande à Cato Vert de continuer la lecture. Puis, elle se précipite à l'intérieur et ressort avec son chapeau de paille. En effet, Monsieur Robert l'attendait à l'entrée du jardin Telfer.
« Je suis content de te revoir, Lakshmi. »
Il prend la petite fille par la main. « Nous allons nous promener dans le jardin. Ce sera mieux pour parler. » La petite remarque que les arbres perdent leurs feuilles et le jardinier a beaucoup de peine à se débarrasser des feuilles jaunes. Lakshmi se laisse guider par le bibliothécaire qui continue à parler.
« Voilà, j'ai enfin reçu une réponse du Père Noël. Il va bien. »
Les inquiétudes de Lakshmi laissent place à un sourire.
« Mais il a besoin de l'aide de tous les enfants, et de toi en particulier.
Moi ?»
demande Lakshmi.
« Oui, je crois comprendre qu'il a été sensible à ta lettre, et il te fait confiance. »
« Qu'attend-il de moi ? De nous ?»«
Il vous faut mener une grande campagne pour protéger l'environnement,
Et cela doit commencer par un grand nettoyage de notre village. Tu as remarqué, Lakshmi, que les feuilles des arbres jaunissent de plus en plus en ce moment? Ce n'est même pas la saison. J'ai l'impression que les arbres souffrent.
Oui, je l'ai constaté moi aussi. Tous les arbres du village sont dans le même état.
Il n'y a pas que les arbres, ma fille. Le ciel aussi, les nuages et la mer perdent leur couleur.
Le Père Noël a donc raison de s'inquiéter.
Comme tu vois, il faut sensibiliser tout le monde sur la gravité de la situation. Il faut commencer par un grand nettoyage. Et vite!
Il n'y a pas de temps à perdre. Pourquoi pas ce dimanche?
Demande Lakshmi. Parfait. Je vais demander au conseil de district de mettre 2 camions de la voirie à notre disposition. En plus, je vais mobiliser tout le personnel de la bibliothèque.
Et si on en parlait à tout le monde qui sera présent demain, à la bibliothèque et au jardin?
Le samedi matin, il y a une grande foule au jardin Telfair. Tout le monde écoute M. Robert et Lakshmi. Parmi, des enfants, des parents, des marchands, des animaux, des insectes et tout le personnel de la bibliothèque. Des curieux viennent les rejoindre au fur et à mesure pour écouter. Le message des 2 orateurs est court et simple. On se donne rendez-vous demain matin à 8h pour commencer le grand nettoyage de notre quartier. Informez les personnes de votre entourage. C'est notre village à tous. Il faut qu'on prenne soin de lui et qu'on lui redonne ses couleurs. Juste après, M. Robert distribue des affiches faites avec des feuilles sur lesquelles ces mots sont écrits. Notre planète est en danger. Sauvons notre mère, la Terre. De son côté, Kang, le kangourou, interpelle quelques jeunes qui allument un feu sous un arbre.
Oh là, les inconscients! Vous rendez-vous compte que cela peut déclencher un incendie dévastateur?
Il éteint aussitôt le feu avec son instincteur, puis il ajoute.
Rendez-vous plutôt utile en participant au grand nettoyage demain!
On est peu nombreux, cela ne servira à rien. De toute façon, tout va redevenir sale après,
répond vivement un des garçons. La voix de M. Robert, qui a entendu la remarque, tonne. Mon garçon, je vais te raconter une légende amérindienne et je te demanderai de méditer là-dessus. Un jour, il y eut un immense incendie dans une forêt. Tous les animaux étaient terrifiés et observaient le désastre. Seul le petit colibri allait chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. On lui dit alors,
« Ce n'est pas avec ces quelques gouttes dérisoires que tu vas éteindre le feu. »
Le colibri répondit, « Je le sais, mais je fais ma part. » Pas une mouche ne vole et le bibliothécaire va rejoindre Lakshmi. Durant toute l'après-midi, il y a une animation particulière dans tout le village. Lakshmi et ses amis font du porte-à-porte en distribuant des affiches. Avant de rentrer, elle demande à ses amis d'informer leurs proches qui habitent dans les autres quartiers et villages. Dans les airs, des oiseaux communiquent entre eux et s'envolent d'arbre en arbre pour diffuser l'information. Des pépiements bruyants se font entendre. Et dans la rue, des aboiements et des miaulements se joignent à ces échanges. Un peu plus loin sur la plage, une colonie de crabes anime une réunion avec les poissons et d'autres habitants de l'océan.
Rendez-vous demain à 8h. Notre mission est de débarrasser la plage et l'océan de ses déchets.
En haut, l'ambiance a complètement changé. Dehors, après avoir fait une haie d'honneur pour accueillir Santa, les rennes sautillent comme des fous. Dans l'usine, l'ambiance est à la fête. Les lutins jubilent, crient et hurlent. Ils ne peuvent contenir leur joie. De son côté, le Père Noël ne peut retenir ses larmes. Migrant, qui ne le quitte plus depuis les retrouvailles, est aussi très ému. Les petits hommes avaient revêtu leur costume traditionnel. Tunique vert sapin, bonnet rouge avec pompons et bottes de la même couleur. Le bonhomme Noël a même droit à une danse improvisée. Une chorégraphie exécutée par les joyeux lutins, mais à laquelle 2 des membres ne participent pas. Lutte et Lutile se tiennent à l'écart et se montrent discrets depuis le retour de Santa, émigrant. Mais le vieux est rusé.
et s'en est rendu compte. À la fin du spectacle, il s'adresse à son équipe.
« Mes enfants, cela me touche de voir comment mon retour vous a fait retrouver la joie. Rassurez-vous, j'étais en confinement et c'est Migrant qui m'a retrouvé. Maintenant, le temps est venu de reprendre le travail, mais l'usine va fonctionner graduellement. Nous n'aurons pas le temps d'honorer toutes les demandes cette année. » Les drones, les robots et les portables seront sur la liste de l'année prochaine. J'ai une idée et je suis sûre que cela va plaire à tous les enfants.
Tout le monde le regarde en silence, la bouche grande ouverte. Santa reprend la parole.
Ah, une dernière chose pour conclure. Je veux que vous le sachiez. Pour moi, vous êtes tous égaux. Il n'y a pas de couleur, ni de race ou de communauté. Tout le monde a sa place ici.
Lutte et l'utile baisse les yeux vers le sol.
En attendant, je vais observer ce qui se passe dans le monde où vivent les enfants,
reprend le Père Noël. Puis, il s'adresse à Lutte et à l'utile.
Je compte sur vous pour suivre les opérations. Faites redémarrer les machines et attendez mon retour.
Il prend Migrant par la main et lui dit :
Tu m'accompagnes.
Migrant suit le Père Noël qui s'engage dans un long couloir. Au bout, un escalier monte en spirale. Le bonhomme l'emprunte. Le bruit de leurs pas résonne sur la structure en bois. Les marches semblent interminables, mais le vieil homme monte avec la même allure. Par contre, Migrant s'essouffle un peu. Il n'a pas l'habitude. Au bout de cette tour se dresse une vaste pièce avec des baies vitrées tout autour. Deux énormes télescopes sont pointés vers l'horizon. Monsieur Robert et Lakshmi sont inquiets. Il n'y a pas grand monde au rendez-vous, sauf la bande de la fillette et les travailleurs du jardin Telfair. Il est déjà 8h30.
On va commencer, ma fille, en espérant que d'autres vont venir nous soutenir.
Comme pour lui donner raison, une équipe de laboureurs débarque avec des paniers, des balais et des pelles. Le bibliothécaire et la petite fille retrouvent enfin le sourire. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Une dizaine de garçons arrivent avec des outils. Lakshmi reconnaît parmi ceux qui avaient allumé un feu au jardin. Ils ne se font pas prier et se mettent à la tâche. La grande lessive commence dans le sud de l'île. Tout le monde est impliqué. Monsieur Robert, à la tête de son personnel, donne le coup d'envoi. Balais, pelles, cisailles en main, ils chassent les ordures. Lakshmi et ses amis se constituent en groupe et procèdent par étapes. Les alentours du jardin, et puis le nettoyage des rues. Les habitants sortent de chez eux et participent à l'opération. Les feuilles mortes et les herbes sauvages sont entassées dans des lieux précis. Mais les camions de la voirie se font attendre, et il est déjà 9h. Que faire ? Voilà que Tomadev débarque avec une grande charrette tirée par son bœuf. Un peu plus tard, Raju, le chauffeur de l'usine sucrière, arrive avec son camion. Aussitôt, quelques habitants grimpent sur le camion et la charrette, pendant que d'autres embarquent les immondices. Certains sont en train de laver les murs d'enceinte de leur propriété. Un peu plus loin, des coups de pinceau redonnent des couleurs aux murs et voilà que tout le village reprend vie. La boutique chinoise du village retrouve sa couleur rouge flamboyant, de même que la vieille gare dont les briques reçoivent une belle parure de rouge. La vieille magistrature redevient à nouveau jaune limon et vert carocane. Les oiseaux aussi sont de la partie. Ils transportent des feuilles mortes dans leur bec qu'ils déposent dans les véhicules. Sur la plage, une curieuse équipe est à l'œuvre. Les poissons et les autres habitants de l'océan ont, depuis tôt le matin, déposé des déchets sur le sable. Maintenant, les crabes font la chaîne pour s'en débarrasser. Des singes prennent le relais pour remplir de grands paniers qu'ils vont déverser dans le camion. Très haut dans le ciel, les pailles en queue sont en train de nettoyer les nuages. Mais le vent éparpille les couches de poussière partout. L'un des pailles en queue vient en parler avec Monsieur Robert, qui à son tour informe Lakshmi. Celle-ci réfléchit un instant et s'exclame.
« Il nous faut de grandes voiles pour y déposer les poussières !»
Une équipe de dames qui se trouvait juste à côté a entendu la petite et répond.
Et si on vous donnait des saris et des longis ?
Parfait ! S'écrie Lakshmi.
Mais vos vêtements risquent de s'abîmer avec toute cette saleté, ajoute Monsieur Robert.
Ne vous inquiétez pas, mon voisin est Dobby. Je vais lui demander de les laver à la rivière.
Génial ! On peut dire qu'on a tout dans ce village. J'ai l'intention de valoriser le patrimoine d'ici. Peut-être à travers des écrits, et pourquoi pas un musée ?
Le bibliothécaire fait un clin d'œil à Lakshmi avant d'aller rejoindre son équipe. Une demi-heure plus tard, des dizaines de saris et de longis de toutes les couleurs, portés par des oiseaux, s'élèvent dans le ciel et s'immobilisent sous les nuages. Les pailles en queue reprennent leurs tâches. Et c'est un va-et-vient incessant de ces sortes de cerfs-volants entre le ciel et la terre. Petit à petit, le ciel retrouve sa couleur bleu-azur. Les nuages reprennent leur forme rigolote. De gros moutons commencent à défiler au-dessus. L'horizon réapparaît et délimite l'océan du ciel. La mer montre sa véritable couleur turquoise. De son côté, la plage s'étale comme une bande d'ivoire et cède la place à un grand tapis vert qui entoure les arbres. Dans la tour, Santa explique à Migrant.
C'est mon observatoire. Cela me permet de tâter le pouls de la terre. Voilà comment, depuis quelque temps, je suis témoin de sa dégradation.
Migrant hésite à faire un pas en avant. Il ressent le vertige.
N'aie pas peur, mon fils. Avance et ensemble, on va voir si les enfants ont bien reçu mon message.
Le lutin s'approche fébrilement vers le télescope et fait comme le Père Noël. Ce qu'il voit alors le fascine. Des villes, des continents, des océans s'étalent devant eux. Mais tout est sombre. Des bandes de différents tons de gris enveloppent ce paysage. Soudain, le Père Noël sursaute.
Victoire ! Ils ont commencé !
Quoi ?
Regarde ce petit point au milieu et tu verras que des couleurs vives apparaissent. Cette petite fille est géniale !
Leurs yeux restent collés à leur longue vue. Ils sont témoins d'une transformation magique qui s'opère en bas. Une main invisible est en train de peindre le paysage. Ici, les aquarelles limpides des océans, et là-bas, les taches de gouache sur le continent. Subitement, le Père Noël quitte son poste et se met à faire quelques pas de danse. Migrant ne peut s'empêcher de rire.
« Je suis le plus heureux de l'univers, Migrant. Mon cœur est rempli de bonheur. Je suis fière de tous ces enfants. Ils ont répondu à mon appel. Enfin, les choses bougent. »
Puis, il s'approche du lutin, le prend par ses bras et l'entraîne dans la danse. Des éclats de rire résonnent dans la tour et descendent l'escalier. Au bas, l'utile et lutte qui écoutaient se précipitent dans le corridor et entrent dans l'usine en s'écriant.
« Ça y est, les amis ! Il a obtenu ce qu'il voulait ! Notre Père Noël a retrouvé sa joie de vivre !»
Il est 15h. L'opération de nettoyage continue de plus belle. Il y a un nombre considérable de personnes dans la rue et tous les endroits sont animés. Les bonnes nouvelles affluent de toutes parts. Monsieur Robert est le premier à les recevoir. Et à chaque fois, il se fait un devoir de les transmettre à Lakshmi. Comme la petite se trouve à une distance de lui, c'est la cresserelle qui est chargée de la tâche. Lakshmi est à son tour comblée. Ce qui se passe dépasse ses espérances. Un élan de solidarité qui va au-delà des frontières de son village. Le nord, l'est, l'ouest, toute l'île est concernée. Le pays se transforme en un immense chantier où balais, pelles et pinceaux sont les principaux outils de combat. Vers 15h30, trois camions de la voirie se présentent. Un officier s'excuse du retard et propose de terminer le ramassage des ordures. En effet, malgré l'effort de Tomadev le charretier et de Raju, le chauffeur de l'usine sucrière, il n'a pas été facile de ramasser les amas de déchets qui jonchent les bords de la rue. Monsieur Robert est soulagé.
« Merci, monsieur l'officier. Je savais que vous n'alliez pas nous laisser tomber. »
Il met ses mains sur ses hanches et regarde autour de lui. La satisfaction se lit sur son visage et ses yeux brillent de bonheur. Le jardin Telfer a retrouvé ses couleurs. Les arbres respirent à nouveau. Les insectes et les oiseaux manifestent leur joie.
les gazouillis et les bourdonnements se font entendre. Un peu plus loin, des marchands de gâteaux et de sirops font la joie de tous. C'est une sorte de pause café. Le partage se déroule dans la joie et la bonne humeur. Les enfants dégustent des sorbets, des fruits confits et d'autres pâtisseries, pendant que des insectes dévorent des grains de sucre. De leur côté, les animaux se gavent de fruits locaux disposés dans des grands paniers de goyaves, de mangues, de papayes et d'ananas. Naturellement, les singes ont chipé les bananes avant les autres. Monsieur Robert passe en revue cette séquence joyeuse. Il prend quelques enfants par la main, dont Lakshmi, et leur propose d'aller chez lui pour constater le travail accompli. Lakshmi est la première à être éblouie.
« Vous êtes trop drôle, monsieur Robert !»
L'homme demande en souriant.
« Mais pourquoi, ma fille ?»«
Vous vivez dans une maison en corail !»
Le bibliothécaire éclate de rire en se tenant le ventre. Face à eux, la mer fait danser ses vagues. Plus haut dans le ciel, un ballon orange flotte et colore les nuages. Monsieur Robert pousse un grand soupir, mais son visage garde toujours le sourire.
« Je suis comblé. La campagne que vous avez menée ici a dépassé les frontières et même les océans. Toute notre planète est concernée. Bravo, mes chéris. Et bravo aux enfants du monde entier. Maintenant, ce sont les adultes qui vont prendre le relais. Et d'après mes renseignements, ils vont créer des espaces verts et planter des arbres partout. C'est mon plus beau cadeau de Noël.
« Nous aussi, monsieur Robert !»
s'exclament les enfants en chœur.
« Je vous donne rendez-vous au jardin le 25 décembre. On va célébrer Noël comme il se doit, mes chéris. »
Les gros nuages ont retrouvé leurs couleurs. Rose bonbon ici, jaune au fond, bleu à gauche et un peu plus loin fuchsia, telles d'énormes barbes à papa suspendues dans le ciel. Les gros sapins se sont débarrassés de leurs manteaux de neige et arborent fièrement des guirlandes qui les parent. Des murmures se font entendre au loin, puis tout cela s'amplifie pour distinguer des éclats de rire et des chants. Réunis autour d'une grande table, des lutins, vêtus de leurs habits neufs, papotent. Un large sourire éclaire leur visage espiègle. Lute et Lutile jettent des coups d'œil en direction de la grande porte qui se trouve à gauche. Celle-ci s'ouvre subitement et le Père Noël apparaît. Il s'écarte aussitôt pour faire place à Migrant, qui tient un énorme plateau dans ses mains. Un énorme gâteau aux couleurs de l'arc-en-ciel y trône. Les yeux des lutins s'écarquillent et leur bouche s'ouvre. Le jeune lutin se charge aussitôt du partage. De grosses tranches sont servies dans des assiettes. Les joyeux lutins ne se font pas prier pour goûter. Après la première bouchée, des murmures élogieux fusent.
« Waouh, miam, super, succulent, tamam !»
Lut et Lutil se mettent à côté de Migrant et lui chuchotent à l'oreille.
« Bravo, frérot. Tu vas nous donner la recette, n'est-ce pas ?»« Mais avec plaisir, mes frères. Comment l'as-tu eue ?»
demande Lut.
« Cela va vous paraître bizarre, mais je l'ai appris dans mes rêves. »«
Tu dois sûrement faire de beaux rêves, mon garçon, »
ajoute le Père Noël.
« Le secret de la recette, ce sont les couleurs. Ce sont des sirops qui les composent. Rouge pour la fraise, le jaune de la mangue, la menthe, les prunes, entre autres. Heureusement qu'il y a tout cela ici. »«
Tout le monde sait que je suis un grand gourmand !»
s'exclame le Père Noël.
« C'est comme un arc-en-ciel, ton gâteau !»
remarque Lutile.
« Pas tout à fait. Les couleurs de l'arc-en-ciel ne se mélangent pas. Alors que pour mon gâteau, tout devient un dans la bouche et les saveurs se mélangent. »
« C'est très profond ce que tu nous dis là, mon fils. Je suis fière de toi !»
fait remarquer Santa, émue.
« Nous aussi, nous sommes fiers d'avoir un frère comme toi !»
lance Lutile et Lut en enlaçant le jeune lutin.
« Bien ! Pour fêter cela, je vous propose une deuxième tournée de gâteaux !»
ajoute Santa en essuyant une larme. Puis, il reprend avec un ton décidé.
« Il faut aussi que je me prépare pour ma mission, les enfants. Mes chères reines m'ont bien manqué. Eh bien... ils seront contents de pouvoir faire leur sortie la plus attendue de l'année. Il n'y a pas que les enfants qui sont impatients ce jour-là. Eux aussi ne peuvent cacher leur excitation. Et n'oubliez pas d'arroser les poudres magiques sur les cadeaux. Les enfants feront de belles rencontres avec. Lut et Lutile, assurez-vous que toute l'équipe d'Aigle soit aussi au rendez-vous.
Nous sommes le 25 décembre. Le soleil brille depuis tôt le matin. Les flamboyants sont parés de leurs costumes de Noël. Le vent fait tourbillonner les pétales dans les airs avant de les déposer délicatement sur le sol. Un grand tapis rouge s'étale partout dans le village. Les oiseaux orchestrent un concert de pépiments dans tout le village. Les enfants se dirigent bruyamment vers le jardin Telfair, point d'attraction en ce matin d'été. Tout cela contribue à caractériser l'ambiance qui règne dans le sud. Vêtus pour la circonstance, les bambins se montrent plus excités les uns que les autres. Les immenses portails ornés de bouquets bananés sont grands ouverts et les enfants entrent à la queue leu-leu. Le personnel de M. Robert fait une haie d'honneur pour les accueillir. Parmi Kang et Koa et tous les autres animaux, les arbres sont décorés, mais la bibliothèque se remarque. Ces lianes sont recouvertes de guirlandes multicolores. Lorsque Lakshmi se présente, elle ne peut retenir sa surprise. Elle n'en croit pas ses yeux.
« Ce n'est pas possible! Je rêve !»
Un chat, portant un chapeau et des bottes, lui fait la révérence. Un peu plus loin, une petite fourmi rouge, perchée sur le dos d'un chien, lui fait signe.
« Lilette et Gaspard, mes amis !»
s'écrie-t-elle. Sur la gauche, Tikoulou joue à boule casse-cotte avec une bande de son âge. Lakshmi se laisse emporter par la rencontre des personnages de conte qui ont envahi le jardin Telfair. Soudain, une main tenant un panier rempli de bonbons se présente devant elle.
« Oh, gâteau canette !»
s'exclame la petite. Tizan, qui tient le panier, lui fait un clin d'œil. Une petite fille avec des nattes blondes portant une cape rouge accompagne Tizan. Un jeune blond, vêtu d'une écharpe, contemple la mer au loin. Au pied de chaque arbre, c'est la magie qui fascine les enfants. Des livres s'ouvrent les uns après les autres et d'autres personnages sortent des pages pour envahir le jardin. Lakshmi a face à elle quelques super-héros dont Spider-Man qui passe au-dessus de la tête des enfants éblouis. Une équipe de petits bonhommes bleus se faufile entre les pieds des enfants pour échapper à un chat. Lakshmi se laisse emporter dans sa découverte de plus en plus surprenante. Tout à coup, un autre personnage bleu apparaît devant elle.
« Azuro, le petit dragon aussi est là !»
Elle remarque Kang qui lui court après. Descendant du ciel, de grands aigles arrivent avec des cadeaux suspendus dans leur bec. C'est l'effervescence dans le jardin Telfair. Lakshmi pivote sur elle-même pour admirer le spectacle qui se déroule tout autour. Soudain, elle aperçoit un gros bonhomme en rouge dans la foule. Son cœur fait un bond et elle se précipite dans sa direction. Mais celui-ci a disparu. Le revoilà qui apparaît sur la plage. Lakshmi se fraye un passage et se rue vers la mer. Elle cherche partout, mais il n'y a personne. À ce moment-là, elle aperçoit un traîneau qui s'élève dans le ciel. Elle fait de grands signes de la main avant de retourner sur ses pas. Une grande silhouette se dresse alors devant elle. C'est Monsieur Robert. Il a un gros paquet dans ses mains. Il sourit comme d'habitude.
« Il a dû partir, ma fille, parce qu'il a beaucoup de travail. Il m'a chargé de te remettre ceci. »
Il tend le cadeau à Lakshmi. Celle-ci le déballe sans tarder. À l'intérieur se trouve toute une collection de livres et une enveloppe avec le message suivant.
« Merci beaucoup, ma petite. Nous allons nous rencontrer bientôt. Père Noël. »